Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale et française. En France, le monde du travail est en ébullition et s'apprête à connaître un mois de décembre marqué par une série de journées de grève et de mobilisation. Au-delà de la réforme des retraites en question, ce qui est au cœur de la crise qui s'annonce, c'est la révolution que connaît le monde du travail. Que ce soit le mouvement des Gilets jaunes qui a fêté son premier anniversaire il y a quelques jours, ou le monde hospitalier qui est toute voile dehors depuis des mois. Ce qui est en cause, ce sont les rémunérations insuffisantes quand il y a du travail, la précarité de ce monde du travail et les mutations induites par les nouvelles technologies comme par la mondialisation. C'est pourquoi nous consacrons cette émission au travail, aujourd'hui et demain. Faut-il enterrer le salariat, les contrats à durée indéterminée? Quel impact ont la mondialisation et l'informatisation, l'automatisation sur la définition des tâches dans l'entreprise, sur le rôle des employés? Va-t-on vers plus d'informalité? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Christine Herel.
Bonjour.
Christine Herel, vous êtes professeure au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, où vous êtes titulaire de la chaire économie du travail et de l'emploi. Vous êtes directrice du centre d'études de l'emploi et du travail. Et avec vous dans ce studio à vos côtés, Gilbert Sedd, bonjour.
Bonjour.
Gilbert Sedd, vous êtes professeur associé en économie à l'université d'Aix-Marseille. Votre dernier livre avec votre co-auteur Jacques Barthélémy, Travailler au XXIe siècle, chez Odile Jacob. Et je termine ce premier bref tour de table par vous, François Vey, bonjour.
Bonjour.
François Vey, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Zadig, toute jeune revue dont le numéro 3, qui est encore en kiosque pour quelques jours, est intitulé « Le travail pour quoi faire », une revue dans laquelle il y a de nombreux reportages, comme dans cette émission, où il y a toujours des reportages. Nous irons donc retrouver Abdoulaye Rali à Maurice, Abla Jounaïdi du service économique de RFI nous attend ici à Paris, et puis Eric De Salve à San Francisco. Alors, le travail, c'est une notion très vague à laquelle beaucoup de monde s'intéresse, des juristes, des sociologues, des économistes. Alors, comme ici nous parlons économie, c'est une langue, une manière de voir le monde, l'économie, de le comprendre, de l'interpréter. Pour vous, madame et messieurs, le travail, c'est seulement un moyen de produire de la richesse ou c'est quelque chose de plus, Christine Herel?
C'est bien sûr quelque chose de plus, mais là, je pense que quand je parle ainsi, ça n'est pas uniquement en tant qu'économiste, puisqu'effectivement, on ne peut pas se limiter à une vision purement marchande du travail. Il y a une dimension sociale, évidemment, qui est très importante, une dimension d'intégration dans la société, de participation à la société, dans le travail, qui est tout à fait importante.
Mais dans l'intitulé de vos fonctions, il y a deux mots, travail et emploi. Quelle est la différence ?
Alors, en règle générale, quand on parle d'emploi, on va parler plutôt du type de contrat que l'on détient, donc de la définition un petit peu juridique et économique de l'emploi occupé. Alors que quand on parle de travail, on va s'intéresser davantage au contenu des tâches du salarié, aux conditions dans lesquelles elles sont exercées, etc.
En fait, au salaire.
Le salaire, c'est quelque chose qui caractérise également l'emploi, au sens un emploi occupé. On va aussi pouvoir lui le définir à partir du salaire. Ça fait partie des conditions d'emploi, le salaire.
Gilbert Sedd, le travail pour vous, comment le définiriez-vous?
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, à une nuance près, vous voyez. D'ailleurs, vous avez parlé de salaire, vous avez parlé de salariés. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans être des salariés. Et c'est important d'ailleurs quand on parle des mutations du travail. Alors, travail, emploi, vous voyez, un écrivain qui est chez lui peut travailler à son prochain roman. Il n'a pas d'emploi au sens traditionnel du terme.
Mais au sens économique, mais il a un emploi dans la société.
Il a du travail. La société ne l'emploie pas. C'est lui qui décide de mobiliser son énergie, sa personne, dans une certaine activité, pour écrire un ouvrage dont il espérera, évidemment, le plus grand nombre de ventes. Vous voyez, la société, dans cette société, il n'occupe pas un emploi. Par contre, évidemment, il travaille, il fournit un certain travail. Et puis, au-delà de cet individu que je viens de décrire, il y a bien sûr, quand on parle des mutations du travail, il faut nécessairement en parler, tous les entrepreneurs individuels, tous les indépendants, pour parler plus largement, qui ne sont pas des salariés, qui travaillent, qui occupent d'une certaine façon un emploi pour certains d'entre eux, on pourrait presque le dire, puisque leur condition de subordination économique est parfois très proche de celle des salariés, mais qui sont censés décider de façon libre quand ils se mobilisent, quand est-ce qu'ils vont travailler, gagner leur vie, dans quelles conditions, etc. Ils sont censés.
François Vey, je me tourne vers vous, le journaliste. C'est assez rare de recevoir un journaliste dans cette émission. Vous êtes là parce que vous êtes le rédacteur en chef d'une excellente revue, Zadig, dont je recommande la lecture à tout le monde, et dont le numéro 3 est consacré au travail en France. Alors vous disiez, avant qu'on démarre cette émission, que cette revue était consacrée aux invisibles. De qui parlez-vous dans cette revue ?
En faisant ce dossier sur le travail, on s'est posé un peu la même question que vous, de savoir où on en était, de faire une sorte d'état des lieux. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir à quel point le sens, la valeur, l'importance du travail en France est considérable. Bien sûr, ça a été renforcé par le chômage de masse, parce que derrière le travail, il y a un statut social qui vous est donné, et c'est particulier à la France, l'importance qu'on donne au travail. Moi, je me suis aperçu en faisant ce dossier que on était un peu les plus attachés au travail de tous les pays européens. Mais à quelle sorte de travail on est attaché ? En fait, on est attaché à un travail qui donne une identité sociale. Et ce qu'on a voulu voir à travers ce dossier, c'est des gens justement qui étaient en perte d'identité sociale ou qui n'en avaient pas parce qu'ils étaient en grande situation de précarité ou parce qu'ils rejetaient les valeurs classiques, disons, du monde de l'entreprise. Et donc, c'est pas qu'ils n'ont pas de travail parce qu'ils exercent quand même une activité, mais ils ont fait un pas de côté pour se mettre à l'écart d'un système qui, pour l'instant, ils rejettent.
Alors, dans ce gros volume, puisqu'il y a 180 pages, il y a un article, un reportage qui a retenu mon attention, qui est celui d'une journaliste qui s'appelle Manon Polic, qui s'est intéressée aux ambulanciers de nuit. Alors, elle, pendant ses études, cette journaliste, elle a été quelques mois ambulancière, on imagine pour financer son passage à l'université ou dans une école de journalisme. Et puis là, elle est allée retrouver des ambulanciers. En quoi est-ce que, bon, ils travaillent la nuit, mais en quoi est-ce qu'ils sont invisibles ? En quoi est-ce qu'ils parlent du monde du travail aujourd'hui en France ?
Alors, bah écoutez, nous, il nous a semblé qu'ils étaient particulièrement invisibles dans la mesure où vous et moi, on ne sait pas ce que fait un ambulancier très concrètement. Et a fortiori la nuit, ça nous échappe complètement de savoir à quelles urgences ils doivent faire face. Et ensuite, ce travail-là, ben, on a le sentiment qu'il a une grande importance sociale et en même temps, il est très peu reconnu. Il y a un diplôme pour être ambulancier et cette journaliste, si elle a pu faire le travail donc d'aide ambulancière, c'est parce qu'elle avait ce diplôme qu'elle a passé quand elle était étudiante. On s'est rendu à Oyonnax, qui est la capitale de la plasturgie en France, qui compte de nombreuses usines qui travaillent la nuit. Et donc, ces infirmiers, ils vont intervenir aussi bien sur des accidents du travail. Oui. Ces ambulanciers, pardon, avec des infirmiers. Et puis, ils vont ensuite les conduire aux urgences. Et puis, ces ambulanciers, ils sont aussi sur le stress, l'angoisse, les dépressions, les choses qui se réveillent la nuit dans une population qui peut être en souffrance le jour et qui, tout à coup, la nuit, ça devient insupportable. Donc il y a tout un pan de la réalité sociale dont on se dit qu'il nous échappe. Et avec cette jeune femme, Manon Polic, eh ben, on découvre à la fois le travail quotidien, physique, mais aussi nerveux. Le fait de se réveiller et de se rendormir toutes les heures au gré des urgences, c'est pas un travail anodin du tout. Il a un aspect physique aussi quand on déplace les personnes dans les EHPAD ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, on s'est dit... finalement,
les EHPAD, on le précise pour nos auditeurs, c'est les maisons de retraite. C'est un signe de
l'apparence,
ce qu'on appelait jadis les maisons de retraite.
Voilà. C'est les maisons de retraite médicalisées, c'est les personnes qui sont dépendantes. Donc, à travers cette vie d'infirmier à Oyonnax, encore une fois faiblement rémunérée, où les gens sont très attachés à leur métier, on découvre aussi ce qu'ils appellent le stress de l'infirmier, c'est-à-dire le fait que on s'occupe de 5-6 cas par nuit, on fait le maximum, on discute avec les gens, on a des moments très privilégiés, et puis après on les perd de vue, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et on ne sait pas ce qu'a donné la prise en charge.
En vous écoutant, il y a un mot, François Vey, qui me vient à l'esprit, je voulais le jeter un peu dans la conversation, Christine Hall, Gilles Berset, ces gens, ce sont des prolétaires. C'est un mot qu'on n'emploie plus du tout.
Non, effectivement, c'est un mot qu'on n'emploie plus, sans doute parce que il a pris au fil du temps une connotation peut-être un peu péjorative, c'est pour ça qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui. Ensuite, je ne sais pas si ça conviendrait parfaitement au type de profession que vous venez d'évoquer. Parce que là, dans l'exemple des ambulanciers, je pense qu'effectivement, on est sur des métiers qui sont des métiers très particuliers pour lesquels, alors je vais peut-être juste revenir un petit peu là-dessus, je pense que ce que vous avez fait, enfin la démarche que vous avez faite me paraît tout à fait intéressante, c'est-à-dire que il faut vraiment aller analyser l'activité concrète des gens pour comprendre ce qu'est leur travail. C'est ce que font notamment les ergonomes, par exemple, quand ils analysent le travail. Ils vont vraiment regarder ce que font les gens, quel poids ils portent, quels gestes ils font, la répétition des gestes, mais aussi les interactions sociales, etc. C'est très important. Et je pense que dans ce type de métier, on est quand même sur des tâches relativement complexes, avec des interactions sociales importantes. Donc c'est pas ce qu'on mettait traditionnellement sous le terme de prolétariat.
Gilbert Sept, ce monde du travail que décrit François Vey, c'est un peu un monde, entre guillemets, ancien, dont on parle beaucoup moins. Il dit, ce sont des invisibles parce que on s'intéresse beaucoup plus aux nouveaux métiers, aux startups, aux start-uppers.
Oui, c'est assez curieux. Moi, le mot invisible ne me serait pas venu à l'esprit pour parler d'ambulancier. Pourquoi? Parce que c'est un travail que tout le monde connaît. On n'en connaît pas le contenu précis, mais tout le monde a été au contact d'ambulanciers pour soi-même ou pour quelqu'un de sa famille ou en entrant dans une structure médicale. Donc, c'est pas un travail et même un emploi, puisque généralement ce sont des gens qui sont salariés, encore qu'il y a des indépendants aussi ambulanciers, mais c'est pas un travail invisible, loin de là. Il est même d'ailleurs souvent visible, puisque un ambulancier travaille souvent avec une ambulance, donc ce qui le rend visible.
Mais vous voyez ils sont bruyants et visibles, mais ce qu'on veut dire nous par là, tout simplement, c'est qu'en fait on ne s'intéresse pas suffisamment à eux, au contenu de leur travail. Oui, et puis ils s'estiment pas suffisamment reconnus.
Oui, mais
j'aurais
employé ce mot-là plus volontiers pour d'autres types de travaux. Je vais vous en donner un, le travail de nettoyage, c'est-à-dire les gens qui viennent à 4h du matin dans des entreprises pour nettoyer les sols,
ou
les
murs,
ou dans nos rues, nettoyer les toilettes et repartir quand les salariés arrivent. Ils sont, pour le coup, visuellement invisibles.
Tout à fait.
Vous voyez, au sens fort du terme. Ils sont salariés, mais on ne les voit pas. On voit le résultat de leur travail, on ne les voit pas. Donc non seulement on connaît mal exactement comment le travail est réparti, comment il est exécuté, comment, etc. On en voit le résultat, mais ce sont des gens, voilà. On arrive dans des locaux qui ont été nettoyés et on leur demande d'être invisibles.
Ouais,
on leur demande d'être invisibles. On leur demande d'être là quand les salariés, enfin quand les travailleurs ne sont pas sur le lieu de travail.
Mais
et là, ça pose des vraies questions, évidemment, parce que ils sont invisibles. Je dirais pas qu'on les ignore, mais c'est quasiment ça. Puis en plus, ils sont même pas inscrits dans les conventions collectives des entreprises et des branches dans lesquelles ils interviennent, etc. C'est des conditions de travail très dures, des conditions de rémunération très très dures, etc. Bon,
là, on est dans l'invisibilité. Est-ce que ces gens-là échappent à la modernité?
Alors, je dirais pas qu'ils échappent à la modernité, parce que en fait, ce sont des emplois d'avenir dans une certaine mesure. En fait, ce sont des emplois qui se développent plutôt, notamment tout ce qui concerne effectivement les emplois avec une forte dimension d'interaction sociale et tout ce qui est dans le secteur de la santé, etc. C'est des emplois qui sont en croissance. Donc il y a un avenir pour ces emplois, pour tous les emplois de service à la personne. Il y a un avenir. Ensuite, la question, c'est effectivement l'évolution des conditions de travail dont ces emplois qui est en jeu. Est-ce que la modernisation, au sens, par exemple, la robotisation de certaines fonctions, de certains types de tâches, est-ce que c'est quelque chose qui va aider ces personnes dans la mesure où ça va pouvoir alléger certaines tâches qui sont des tâches pénibles? Ou est-ce qu'au contraire, ça va intensifier le travail? Puisqu'on observe un petit peu les deux tendances qu'en face à la robotisation des emplois. Soit ça peut être quelque chose qui libère, dans le sens qui va libérer de tâches pénibles, soit dans certains modèles d'organisation du travail, c'est quelque chose qui va au contraire pousser à encore plus d'intensification, encore plus donc de rythme pénible, etc.
Alors la robotisation, justement, on va en parler. Exemple en Californie, où cette nouvelle technique est en train de s'imposer dans la restauration rapide. Les humains sont peu à peu remplacés par des machines, jusque dans les cuisines de la Silicon Valley, que ce soit pour faire des pizzas ou des hamburgers. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans le centre de San Francisco, de notre correspondant permanent, Eric DeSalve.
Hello, welcome to Creator. C'est un drôle de burger niché au pied des tours de la tech industrie au cœur de San Francisco. En cuisine, les humains ont disparu, remplacés par une immense machine au milieu du restaurant. Petits pains, tomates, concombres passent à travers des tubes en plastique, atterrissent sur un tapis roulant pour recevoir steak haché, sauce et fromage. La machine autonome à mi-chemin entre l'aile ou la cuisse et la série Black Mirror assemble seuls les burgers à la chaîne. Dans la queue, les clients comme Jackson sortent tous leur smartphone pour filmer la confection de leur déjeuner par un robot.
Just for Instagram. For my friends, yeah.
C'est pour mes amis sur Instagram. Je suis déjà venu ici, c'est très cool comme endroit. J'aime bien l'idée du burger fait par un robot. C'est complètement irréel à voir. Et l'automatisation, ça permet d'avoir sa commande beaucoup plus vite.
On l'appelle juste l'appareil culinaire. Il n'a pas de nom humain.
Jeune diplômée de Berkeley, Emuna est la responsable de la communication.
De la découpe du pain à la cuisson de la viande jusqu'à la fin de la commande, on n'a besoin d'aucun humain.
Quel est l'avantage d'avoir un robot qui fabrique les burgers plutôt qu'un humain?
C'est de plus en plus difficile aux États-Unis de trouver de la main-d'œuvre dans la restauration. Nous sommes confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et nous permettons aussi aux gens de se libérer des cuisines et des tâches répétitives pour se consacrer à des rôles sociaux plus constructifs dans le restaurant. Nous avons encore beaucoup d'humains dans le restaurant pour passer des commandes, par exemple, et nous voulons offrir aux clients, comme à nos employés, une vraie expérience sociale créative.
Et remplacer les humains par des robots présente un autre avantage, selon David, le chef des cuisines, les gains de productivité qui permettent de baisser les prix.
Dans un restaurant classique, il faudrait beaucoup d'employés pour faire un burger aussi rapidement que nous, tout en le vendant $6. Nous produisons un burger en seulement 5 minutes. Ça nous permet d'en vendre énormément.
Que ce soit dans la restauration rapide, les livraisons ou le transport à la personne, l'économie californienne confrontée à un manque de main-d'œuvre peu qualifiée se robotise de plus en plus. C'est le constat de Sylvain Leduc, directeur du département de recherche de la Réserve fédérale de San Francisco, auteur d'un rapport sur l'automatisation.
C'est un peu la problématique en ce moment. Le taux de chômage est historiquement bas. Si c'est difficile de recruter, au lieu d'augmenter les salaires puis d'employer un autre travailleur, bien on automatise. Il y a des effets peut-être négatifs pour les gens qui perdent leur emploi à court terme, mais à long terme, c'est une augmentation de la productivité, une rémunération accrue, des niveaux de vie plus élevés. Donc à long terme, c'est positif pour l'économie.
Mais à court terme, note aussi Sylvain Leduc dans son rapport, les premières victimes de l'automatisation en Californie sont les emplois les moins qualifiés, dont les salaires sont à la baisse en raison de la concurrence des robots.
Un reportage signé Éric de Salve, c'est appétissant. Gilbert Sept, ça vous donne envie de vous précipiter dans ce burger?
Écoutez, ce que vous montrez, c'est un phénomène qu'on observe depuis des siècles. Hein. C'est l'histoire du porteur d'eau d'Alfred Sauvy. Il y avait 20 000 porteurs d'eau à Paris à la fin du 19e siècle. Ces emplois ont disparu grâce aux canalisations et aux réservoirs d'eau. On ne peut que s'en féliciter. Ce qui peut être fait sans atteinte à des droits fondamentaux par la machine, doit être fait par la machine pour réserver à l'humain des emplois avec un contenu plus fort, plus gratifiant, plus intéressant. C'est la source des gains de productivité qui font que, à l'échelle de 150 ans, notre niveau de vie a été multiplié par 10 à 15, un facteur 10 à 15, que notre durée du travail a pu être divisée par un facteur 2, avec beaucoup plus de loisirs, avec des vacances. C'est à la source de cette amélioration de nos vies, il y a bien sûr ces gains de productivité. Alors il faut qu'ils se fassent à moyen et long terme, comme c'était très bien dit par l'une des personnes que vous interrogiez, il y a un gain pour la société, un gain pour chacun. Néanmoins, à court terme, c'est quelque chose qui demande un accompagnement, parce que le porteur d'eau ou la personne qui travaille dans le burger, il peut pas être immédiatement transféré sur d'autres activités. Il faut réaliser ce transfert. C'est un mot d'ailleurs qu'utilisait Alfred Sauvy dans ses ouvrages, ouais. Qui était un grand démographe économiste. Il faut évidemment avoir des systèmes de formation, d'accompagnement agile, c'est un mot à la mode, pour que la personne qui travaille dans ces conditions puisse, quand elle est remplacée par un robot, passer à d'autres emplois et viser d'ailleurs éventuellement des emplois plus riches avec plus de perspectives. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire du poinçonneur de Lila chanté par Gainsbourg. On est content quand même, et Gainsbourg chantait bien le désespoir de celui
qui faisait des petits trous
et qui ne voyait briller dans son ciel que les correspondances. Hein. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, faut accompagner cette personne, bien évidemment.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du travail avec trois invités, les économistes Gilles Berset et Christine Herrel, et le journaliste rédacteur en chef de la revue Zadig, François Vey. En vous écoutant, Gilles Berset, je me dis, mais on cherche toujours à pousser la formation des employés, des salariés au plus haut, mais est-ce qu'il ne faut pas garder du travail pour les gens que faire des études n'intéresse pas, qui ne veulent pas se casser la tête? Est-ce que ces robots, cette automatisation du travail ne va pas priver une certaine catégorie de la population de tout rôle dans la société? Christine Herrel, qu'est-ce que vous pensez de cette question?
Non, je pense pas qu'on ira jusque-là, parce qu'il y a effectivement toute une série de métiers dans lesquels, comme je le disais tout à l'heure, les interactions sociales sont très importantes. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas quelque chose qui peut être totalement substitué par les robots, même s'il y a des robots qui peuvent tenir une petite conversation, mais je pense que ça ne remplacera pas l'humain de ce point de vue-là. Et c'est dit d'ailleurs dans le reportage que du coup, il y a aussi en partie, en tout cas c'est ce que prétend la société qui fait ses hamburgers avec un robot, il y a aussi plus de personnes en salle pour assurer le service pour les clients et les interactions avec les clients. Donc je pense que l'avenir de ces métiers peu qualifiés, il est dans ces interactions sociales. Alors ensuite, ce que ça demande, c'est ça demande quand même aujourd'hui plus de compétences qu'on appelle des compétences générales, c'est-à-dire la capacité effectivement à échanger avec les autres, mais aussi des compétences en matière de numérique, parce qu'on ne peut plus travailler, même dans ces emplois peu qualifiés, sans avoir aucune compétence pour utiliser une interaction avec une tablette, un ordinateur, etc. Donc voilà, donc il y a besoin, je pense, de plus de compétences générales pour tous. Et donc, de ce point de vue-là, le rôle de l'école est extrêmement important aujourd'hui. Lire, savoir effectivement interagir avec un ordinateur, c'est quelque chose de fondamental.
François Vey, ce reportage, il aurait pu prendre place dans la revue Zadig ?
Oui, tout à fait. Là, simplement, sur la robotisation en France, nous, on a pris juste le parti contraire de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ont du goût pour le travail manuel et qu'il a un peu plus la cote. Et on s'est aperçu qu'il y a pas mal de professions intellectuelles qui délaissent leur travail pour aller faire le restaurateur, qui faire l'ébéniste, qui faire le charpentier. On a trouvé un jeune philosophe qui s'appelle Arthur Lockman, qui a arrêté ses études de philosophie pour apprendre le métier de charpentier, qu'il a exercé pendant 10 ans et qui en parle de façon tout à fait merveilleuse sur justement le sens de ce travail-là, auquel il a trouvé énormément de noblesse, et l'énorme apport du travail en équipe, du travail pour quelque chose qui les dépasse tous ensemble. Donc ça paraît très intéressant, et c'est une réalité du travail manuel qu'on croyait, avec tout ce qui s'est dit sur la robotisation, on pensait que le travail manuel allait complètement disparaître, et on se rend compte qu'il y a toute une série de tâches où il est là, en accompagnement aussi des robots éventuellement. Là, on vient de faire, ce sera l'objet d'un prochain numéro, il y a un journaliste qui s'appelle Arthur Fryer-Lalex qui a passé une semaine complète en bout de chaîne dans une usine de parfums à confectionner des cadeaux de Noël, des paquets cadeaux. On fait ça à la main, vous avez les doigts qui saignent, vous devez produire des milliers et des milliers de coffrets cadeaux à toute allure, et ça, c'est du travail manuel, c'est du travail intérimaire, c'est du travail saisonnier. Et donc dans une usine du Loiret là en ce moment, pour 343 € par semaine, on travaille 10 heures par jour à confectionner ce que vous allez mettre au pied de votre sapin. Et c'est comme ça un aspect aussi de ce travail invisible qu'on veut montrer.
Mais ce que vous soulignez là dans la rémunération, c'est que ce travail est mal payé.
Il est effectivement mal payé. En même temps, si vous écoutez les gens qui le font, ils sont extrêmement heureux de pouvoir gagner ça dans leur semaine. Effectivement, c'est un travail sans qualification. Pour exercer cet emploi-là, il a fallu s'inscrire à Manpower, et puis après,
donc
vous avez...
Donc c'est une entreprise de travail intérimaire.
Tout à fait. Et ensuite, on vous demande simplement d'être capable de visser et dévisser des éléments sur une plaque pour voir si vous avez une dextérité manuelle suffisante. Et puis, on vous engage.
Christine Herrel, est-ce que le travail est de moins en moins rémunéré ?
Non, on ne peut pas dire ça de manière générale. Il y a une croissance, notamment des revenus les plus élevés dans certains pays. En revanche, au niveau des ce qu'on appelle les bas salaires, là, il y a de fortes différences entre les pays, notamment selon l'existence ou non d'un salaire minimum. Mais la tendance récente, c'est quand même plutôt, effectivement, de réinstaurer ou d'instaurer des salaires minimums dans des pays qui n'en avaient pas, comme par exemple l'Allemagne.
Ou les États-Unis.
Les États-Unis, il y en a eu, puis il y en a plus. Enfin, c'est plus complexe l'histoire des États-Unis en matière de salaire minimum. Il y a aussi des différences entre les États. Mais en tout cas, la tendance très récente, elle est plutôt quand même à l'instauration ou la réinstauration de ces salaires minimums, et plutôt à leur augmentation si on regarde les tendances qui sont observables chez nos voisins, donc par exemple en Allemagne ou par exemple au Royaume-Uni. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que globalement la rémunération du travail a baissé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui occupent des emplois à temps partiel, parfois à temps partiel très court, dans lesquels la rémunération, même avec l'existence de ce salaire minimum horaire, va rester largement insuffisante pour vivre de son travail. C'est plutôt ça qui pose problème, en tout cas dans les pays développés.
Gilbert Sepp.
Oui. Alors déjà, vous savez, la réalité des pays développés, des pays avancés est très très diverse. Prenons notre pays, la France. En France, la part des salaires dans la valeur ajoutée augmente. Vous voyez, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, on croit que c'est l'inverse, qu'il y a une loi générale à la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Ben non. Non, non, la part du coût du travail dans la valeur ajoutée en France.
C'est-à-dire dans la richesse créée, hein.
Dans la richesse créée, exactement. La part de la rémunération des salariés augmente. Alors, ça se fait avec moins d'inégalités que dans d'autres pays, mais on peut pas généraliser le travail manuel. Vous voyez, il y a évidemment des travaux manuels qui sont mal payés. Un exemple a été donné tout à l'heure des personnes qui confectionnent des paquets cadeaux. Chacun d'entre nous a été amené à faire appel à un plombier pour réparer une chasse d'eau ou pour réparer une petite canalisation ou déboucher une canalisation. C'est un travail manuel qui est très bien payé. D'ailleurs, certains disent mieux payé que des travaux très très qualifiés qui appellent un capital d'études élevé comme un médecin, comme professeur d'économie ou un médecin. Vous voyez, et c'est dur à trouver. Donc, dans le travail manuel, il y a une diversité absolument considérable et évidemment gigantesque. Les questions qui se posent, vous voyez, dans le travail manuel, c'est des travaux manuels qui demandent une qualification réelle, qu'évoquait tout à l'heure Christine, comme par exemple l'accompagnement de personnes dépendantes, ce genre de choses qui sont pas automatisables. On voit qu'il y a il y a vraiment une qualification fondamentale. On voit que ces travaux-là, si on les paye très bien, eh bien, on explose le système, concrètement. Et donc, il y a une contradiction dans les termes. C'est un travail qui n'est pas non qualifié, qui demande des compétences effectives, concrètes. On met pas ses petits enfants quand on demande à quelqu'un les garder ou sa vieille maman dépendante entre les mains de n'importe qui. C'est un travail réellement qui demande des compétences et qui est évidemment très mal payé. Alors sur les salaires minimums, on est un pays dans lequel le salaire minimum est le plus élevé de tous les pays développés. Faut le rappeler. Hein. Il n'y a pas d'autres pays au monde dans lequel le niveau du salaire minimum est aussi élevé. Mais en plus, nous, il est élevé, mais on ajoute des compléments. Heureusement, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs ce qui a été augmenté au début de l'année 2019, qui complète les revenus d'activité. Ça s'appelle, par exemple, la prime d'activité. Si bien que quelqu'un qui travaille peu ne vit pas simplement avec le revenu salarial de son activité. Ce revenu salarial est complété par diverses prestations, dont la prime d'activité, qui peuvent être quelque chose quand même d'assez considérable. Hein. La prime d'activité, c'est 10 milliards aujourd'hui quand même. Vous voyez, le RSA, c'est 10 milliards, la prime d'activité, c'est 10 milliards. On engage des sommes assez considérables en France.
C'est ce qu'on appelle la redistribution. Dans ce travail, il y a la paye, il y a les conditions de travail. Pourtant, même chez les cols blancs, on est soumis à des cadences infernales. Il n'y a pas que quand on fait les paquets cadeaux pour Noël. Voici l'exemple de Wendy Boucrow, une juriste employée dans un cabinet international à Londres et qui a préféré partir s'occuper de la quincaillerie Laval Tsang Man Poon, une quincaillerie familiale à l'île Maurice. C'est un reportage éco-d'ici éco-d'ailleurs signé Abdoulaye Rally à Port-Louis.
Ici, de switch.
Le village de Flac est l'attraction de l'Est, une région agricole et touristique. C'est ici que Wendy Boucro, 35 ans, est venue changer d'air et de profession pour prendre en charge une entreprise familiale, la quincaillerie TMP. Un monde en tout point différent de sa spécialité à Londres.
La nature de mon travail en tant que spécialiste en contentieux international dans un cabinet tel que celui où j'étais faisait que je n'étais jamais à 100% tranquille. Souvent, j'étais interrompue en week-end, en soirée ou pendant les vacances. Et je pense que j'ai quand même bien ralenti et je profite un peu plus de la vie pendant que je suis ici.
Wendy Boucro a quitté Maurice à l'âge de 19 ans pour des études de droit. Elle a passé sa vie entre Paris et Londres. Avant de poser ses valises sous les tropiques, elle a exercé pendant 7 ans chez Freshfields. Mais c'est ici qu'elle a retrouvé la fraîcheur.
Le travail ici est d'une nature très personnelle, que ce soit l'interaction avec les clients ou l'interaction entre collègues. Quelque chose quand même qui est très différent du travail à Londres, qui peut être très professionnel, mais d'un côté très froid.
Il est fixe 25 mm.
Directrice de quincaillerie, un milieu qu'elle connaissait à peine en arrivant, Wendy a opté pour la plus simple des méthodes pour améliorer le business familial.
Je passe une énorme partie de mon temps en fait à m'asseoir et à observer comment mes collègues travaillent. Et j'aide Laval aussi en grande partie à informatiser son opération.
Laval, c'est votre père?
Laval, c'est mon père en effet. Donc Laval a plus que 10 000 articles dans sa quincaillerie qu'il faudra répertorier et informatiser.
Wendy Boucro a choisi de s'offrir une pause de 2 ans avec son mari Emmanuel, scientifique et professeur d'université, pour vivre l'instant présent.
Emmanuel a encore un peu de problème avec le créole, mais ça va. Mmh. Nous avons fait le choix d'habiter sur la plage pour justement profiter à fond de l'expérience, pour ne pas se dire que nous sommes passés à côté de quelque chose. L'expérience totale.
Le couple Boucro ne se pose pas de questions sur sa vie future. Il veut juste s'éloigner un moment d'un monde qui a aboli l'espace et le temps.
Un reportage signé Abdullah Erali dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, où nous parlons du travail avec les économistes Gilles Berset et Christine Herel et le journaliste rédacteur en chef de la revue Zadig, François Vey. Ce reportage, il est frappant à la fois par la pression qui est mise sur cette jeune femme dans son précédent métier et par le choix radical qu'elle a fait. François Vey, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure dans ces gens qui plaquent tout.
Oui. On a vu ça, effectivement, on a ça en France. On a une journaliste là, qui s'appelle Gaëlle Karadec qui nous a fait un reportage à Nantes auprès de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, auprès de jeunes ingénieurs. Et ils ont vécu un peu ce que cette Mauricienne a fait, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans une voie qu'ils croyaient être la leur. Ils ont été déçus, ils ont fait un pas de côté, ils se sont mis au chômage ou ils se sont mis dans une activité à temps partiel ou une activité bénévole ou associative pour redonner du sens au travail, aider ceux qui n'ont pas de travail à se confectionner un CV, à savoir passer des entretiens d'embauche. Et c'est une précarité qui disent voulue. Ils sont dans le domaine de l'associatif, ils sont dans le domaine du collaboratif. Et on peut pas dire que ces jeunes gens refusent le travail. Ils travaillent, en fait. Simplement, ils refusent une voie toute tracée, qui est celle de la mondialisation, qui, pour certains, est une mondialisation heureuse. Eux, ça ne leur a pas convaincu. Ça ne les a pas convaincus. Alors, moi, je ne saurais pas dire, mais j'ai en face de moi des spécialistes, si ce phénomène est massif, je pense qu'il est tout à fait marginal, si vous voulez, mais je pense qu'on l'appréhende encore mal, mais qu'en termes de nouvelles tendances, c'est peut-être quelque chose qui est émergent.
C'est émergent, Gilbert Sept?
Écoutez, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Moi, ça me fait penser, d'ailleurs, vous savez, au film de Tanner, c'est un thème récurrent.
Enfin, un réalisateur suisse.
Dans les films d'Alain Tanner, ouais. Tout le monde a en tête la salamandre, oui. Avec cette personne qui...
Peut-être
qui
pas est tous nos auditeurs, là.
Dans une entreprise qui fabrique des saucisses et qui craque. Tout le monde a en tête Bruno Gans, dans La Ville Blanche, qui est un matelot sur un bateau de transport de marchandises, et qui craque, qui se dit, je veux faire autre chose de ma vie, réfléchir à ma vie, à ma famille, etc. Il craque à Lisbonne, il y a de très belles images. Quelque chose d'assez courant. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui était un grand avocat d'affaires, qui a décidé d'arrêter, d'ouvrir une librairie. Vous voyez, c'est une quantité de travail équivalente. Une librairie à Amsterdam, et qui a dû diviser ses revenus par un facteur 10, sans doute. Et c'est une décision qu'il a prise, un jour, de façon pensée, complètement assumée. C'est un phénomène qui a toujours existé. Je dirais que maintenant, il y a peut-être plus la possibilité qu'avant pour que ce phénomène s'exprime. Vous voyez, l'agriculteur, l'exploitant agricole qui était le fils d'exploitant, petit-fils d'exploitant agricole, il y avait 40% d'emploi dans l'agriculture hein, en France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On voit pas comment il aurait pu connaître un itinéraire de rupture comme ça. C'était pas facile. Il était très peu allé à l'école, etc. Maintenant, c'est quelque chose, je dirais pas qui est facile, mais qui est plus concevable, plus à la portée des uns et des autres que ça pouvait l'être auparavant. Néanmoins, c'est un désir qu'il n'a pas eu.
Tout à fait cette idée que une des difficultés, une des chances de la période actuelle, c'est qu'il faut inventer son activité, il faut inventer sa vie, et c'est vrai qu'avant on était dans des cadres où de toute façon elle, c'était subi, c'était contraint, c'était tout tracé. Là effectivement il y a la possibilité pour plein de gens de se donner plusieurs vies professionnelles ou d'exercer une activité dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes et qui n'ont pas pu pour des raisons diverses exercer.
Christine Herel, c'est la mondialisation qui permet ce passage d'une vie à l'autre. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est quelque chose de courant qui est appelé à se développer?
Alors, je pense que ça reste marginal pour le moment, qu'ensuite, effectivement, c'est sans doute de plus en plus important dans la manière dont les gens se projettent dans leur emploi, dans leur avenir. C'est-à-dire que de plus en plus, effectivement, il y a des trajectoires où on va chercher à trouver effectivement des expériences très différentes les unes des autres. Et donc
en même temps, on nous dit il faudra avoir plusieurs métiers.
Oui, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que c'est cette idée qu'on n'a plus un emploi à vie, un métier à vie, et qu'on doit effectivement pouvoir évoluer au cours du temps. Alors, je voudrais juste revenir peut-être sur l'exemple là du reportage, parce que ça m'a fait penser aussi à l'ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, de David Graeber, celui qui s'appelle Bullshit Jobs, qui a eu énormément de succès dans les pays anglo-saxons.
David Graeber, c'est un économiste
C'est un journaliste économiste qui effectivement a fait une sorte de reportage, enfin a fait donc est allé voir des gens et a envoyé un questionnaire en ligne que les gens pouvaient effectivement remplir. L'idée c'était de voir, y compris dans des emplois très qualifiés, donc typiquement dans le secteur de la finance, de mettre le doigt sur ces emplois qui n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire des gens qui font des tâches qui sont très bien rémunérées, donc c'est pour ça que je disais l'exemple type c'est la finance, avec des horaires comme la jeune femme du reportage qui peuvent être des horaires extrêmement longs, etc., avec une forte intensité, un rythme de travail qui n'est pas facile, par contre, qui sur le fond, les tâches qu'ils réalisent sont extrêmement répétitives et n'ont aucun intérêt. Donc c'est ça qu'il appelle effectivement ces emplois de merde.
Oui, je vous laisse la traduction.
ces emplois à la con, voilà, c'est plutôt emploi à la con en fait, si on veut réellement traduire. Et donc pour lui, ces emplois se développent. Alors il faut évidemment pas, je pense, moi je prendrais pas ce message à la lettre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la réception de son livre. C'est-à-dire l'idée que effectivement en Angleterre, aux États-Unis, il a rencontré un public très important de gens qui vivent leur travail de cette manière, c'est-à-dire qui effectivement se sentent aliénés au travail parce que ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font. Et donc typiquement effectivement ces gens dans ces emplois à la con peuvent avoir envie d'infléchir leur trajectoire de manière radicale et de partir sur d'autres types de
aller travailler au bord de la mer, le long d'une plage, Gilbert Sette.
La question qui se pose, c'est dans quelle mesure notre société doit accompagner des itinéraires de rupture comme ça. Vous voyez, c'est un vrai débat. Et on l'a vu dans la campagne présidentielle dernière.
Alors, Gilles Berset, je vous interromps. Je voudrais préciser à ce point que vous êtes considéré souvent comme un des pères des 35 heures, comme l'un de ceux qui a amené cette réforme importante.
Les 35 heures ont beaucoup de pères et de mères.
Mais vous en êtes un.
Voilà, j'en suis sans doute un. Mais je voudrais dire que dans ce choix, vous voyez, les 35 heures, c'est plutôt, vous voyez, le partage entre loisirs et activités. Là, dans votre reportage et dans ce qu'on a dit précédemment, c'était plutôt le changement même d'activité, d'implication professionnelle dans notre société. Le débat qui a eu lieu, on peut le juger insuffisant, on peut considérer que c'était un premier tout petit pas sur l'indemnisation par le chômage de démissionnaires qui ont un projet professionnel. C'est un peu ça quand même l'idée qu'il y a derrière. Il y a des gens qui ont un job, qui sont payés pour faire ce job, mais qui veulent changer de façon plus ou moins radicale. Est-ce que notre société doit les accompagner et les financer, hein, puisque l'indemnisation au chômage, c'est quand même un financement, hein, de la collectivité pour ces gens-là. Est-ce qu'on doit financer des ruptures de ce type-là? Certains disent c'est du luxe, d'autres disent il vaut mieux le financer parce que sinon, de toute façon, la rupture pourra avoir lieu et même le coût pour la société pourrait être encore plus important. Et puis on doit participer au bien-être et cette rupture participe au bien-être de ces individus si le projet professionnel fait sens. Vous voyez, c'est une vraie question qui est dans le débat actuel sur l'indemnisation de chômage. On peut considérer que c'est vraiment un tout petit premier pas. On va voir comment ça mord dans un ou deux ans. Et puis, si c'est en dessous des attentes, ou en tout cas des demandes de la part des gens. Mais c'est quelque chose qui est pris en charge aussi par notre société. Vous voyez, c'est pas simplement des personnes qui ont des difficultés à s'insérer et qu'il faut accompagner, c'est des personnes qui sont insérées, qui ont un job, mais qui disent « je voudrais faire autre chose de ma vie ».
Alors, il y a ceux qui se plaignent du travail, ceux qui souffrent des conditions d'emploi, et puis il y a ceux qui créent leur propre emploi, peut-être pour échapper à un univers qui leur est fermé. En France, plus de 40% des jeunes de ce qu'on appelle les quartiers souhaiteraient monter leur propre entreprise, un rêve souvent balayé faute d'accompagnement et d'accès au financement. Pour les y encourager et les aider, l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, joue ce rôle depuis 30 ans pour lui permettre de doubler son appui financier aux porteurs de projets. Elle a obtenu la semaine dernière un soutien massif de la région Île-de-France. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Abla Jounaïdi à Montreuil, en région parisienne.
La Petite Kabyle, c'est le nom de la marque créée par Sonia Amori. La pétillante trentenaire est née en Algérie et a grandi en HLM dans le nord de Paris. Dans ses objets de mode et de design se mêlent ses cultures d'origine et celles du monde entier. Une entreprise montée il y a 2 ans grâce au soutien de l'ADI.
Le problème des quartiers prioritaires, c'est qu'on se sent seul comme tout entrepreneur qui a une idée et qui a envie de la porter, mais qu'en plus on n'a ni les codes, ni les accès à des chemins qui nous permettraient finalement de réaliser ça. Bah, ils m'ont aidé à faire ça et grâce à ça, en fait, j'ai pu porter ce projet-là et être prise au sérieux par des financeurs, par d'autres porteurs de projets. Et cette méthodologie-là, bah, je la dois à l'ADI et c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux véritablement déjà avoir pas honte et ne pas me sentir imposteur.
Sonia Amori n'a pas demandé de soutien financier, mais elle a suivi un stage de l'ADI, 8 semaines, où les jeunes sont accompagnés de l'idée vers sa concrétisation. C'est Clément Lamirel, conseiller à l'ADI, qui l'a cornaqué.
Sonia, typiquement, elle avait besoin d'un accompagnement pour structurer son projet, parce que, encore une fois, je pense qu'on n'est pas entrepreneur et il y a encore une fois des choses à savoir. Et y a des personnes qui ont la curiosité pour aller chercher, il y en a qui ne l'ont pas forcément. Il y a tellement de choses à apprendre que c'est difficile aussi de faire sa culture tout seul. Enfin, voilà, et l'idée de notre accompagnement à nous, c'est d'offrir ces outils-là, permettre aux gens d'être le mieux outillé possible pour éviter les obstacles, en tout cas les passer plus facilement.
L'ADI est né en Seine-Saint-Denis, où la volonté d'entreprendre est très forte, mais son action est plus vaste. Grégoire Eholm est son directeur pour l'Île-de-France.
Une des missions de l'ADI, c'est une mission de plaidoyer qui vise à faire en sorte que l'accès à l'entrepreneuriat soit plus simple. Plus simple, plus visible pour les entrepreneurs, mais aussi que tout l'environnement administratif de ça soit un petit peu simplifié. Donc on a beaucoup milité, par exemple, pour la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur à l'époque, parce que ça simplifie vraiment les démarches pour quelqu'un qui voudrait se lancer, tester une activité, ou quelqu'un qui n'a pas les moyens de tout de suite démarrer une société avec beaucoup d'investissements, etc.
Grâce aux 2 millions d'euros promis par la région, d'ici 2021, l'ADI ambitionne de renforcer son réseau de conseillers et d'accorder plus de micro-prêts, 10 000 d'ici 2 ans.
Un reportage dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Abla Jounaïdi. François Vey, ces banlieues, c'est une région, une zone auquel vous vous intéressez dans ZADIG, dans ce numéro sur le travail ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on s'intéresse souvent moins aux banlieues de la région parisienne, qui sont assez bien couvertes par la presse nationale classiquement. Là, par exemple, on est allé voir le même type d'initiative que celle que vous montrez dans le 9-3. Ça se passe dans le Calvados, ça se passe à Colombelles. C'est un territoire, donc comme on dit aujourd'hui, zéro chômeur. Et dedans, on a réussi à faire exactement comme la démarche qui vous est décrite dans le reportage. Des entreprises à but d'emploi sont créées qui vont accueillir des gens qui ont un projet, qui ont un projet d'ouvrir un commerce, qui ont un projet des fois de simplement de cultiver des légumes, et ben c'est des personnes qui sont en insertion, qui sont en recherche d'emploi, et ben elles vont créer en fait leur propre activité en étant aidées, en étant soutenues, et ça me paraît extrêmement intéressant qu'on parle de ça. Je trouve qu'on en parle d'une certaine façon pas assez, qu'il y a énormément finalement de gens qui sont porteurs de projets mais qui n'ont pas les ressources forcément intellectuelles ou la culture pour faire toutes les démarches administratives que suppose quand même une création d'entreprise. Donc là, en fait, ils deviennent les salariés de ces entreprises à but d'emploi et en même temps, ils inventent leur activité. C'est un mécanisme qui commence à fonctionner. Ça nous a paru une expérience à faire partager.
C'est du travail, c'est de l'emploi quasiment hors marché, Christine Hérel.
Alors, pas tout à fait, mais parce qu'il s'agit quand même, au final, il faut quand même que ces emplois puissent rapporter un minimum pour pouvoir financer. Enfin, c'est quand même quelque chose qui doit se financer. Il y a des subventions au départ pour lancer les choses et puis, par exemple, pour former les gens, comme dans le cas de l'ADI. Mais ensuite, il faut, si on monte une activité, il faut quand même qu'elle soit rentable. Donc l'idée c'est plutôt de rendre possible un certain nombre de projets que peuvent avoir effectivement ces personnes.
Mais on voit que la mondialisation dont on nous dit qu'elle est facteur de croissance, qu'elle est en quelque sorte la panacée universelle, n'est pas le seul moteur de création d'emplois et de richesses.
Non, à elle seule, elle ne peut pas suffire à créer des emplois pour tous. Je pense qu'il y a effectivement un enjeu très important autour des politiques de l'emploi, autour aussi de la constitution de ces réseaux d'acteurs à un échelon très local pour pouvoir rendre possible un certain nombre de projets. Donc, ça n'est pas la mondialisation seule ne résoudra pas tous les problèmes du marché du travail. Je pense que toutes ces expériences concrètes locales sont très intéressantes. Alors après, moi, ce que ça m'inspire aussi, encore une fois, hein, c'est la question des trajectoires. C'est-à-dire que je pense que c'est très intéressant et très important que ces jeunes puissent créer leur propre entreprise. Ensuite, il n'est pas certain que l'entreprise sera pérenne. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets qui finalement échouent. La question, ça va être aussi du coup l'accompagnement pour faire que cette expérience soit une expérience positive sur laquelle on peut construire et poursuivre sa trajectoire soit sur un autre projet, soit sur un emploi de salarié, puisque c'est une expérience sur laquelle on peut aussi capitaliser pour d'autres choses par la suite. Ça, c'est aussi une dimension très importante.
Gilbert Sept.
C'est un phénomène qui reste marginal hein, quand même dans nos sociétés. Il faut bien voir que le salariat progresse ou se maintient dans 33 des 36 pays de l'OCDE. Il régresse un tout petit peu en France depuis la création du statut de l'auto-entrepreneur en 2008 et régresse un petit peu plus aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, du fait d'incitations fiscales et sociales très très fortes. Mais dans les autres pays, le salariat progresse en part dans l'emploi. Néanmoins, on voit bien que ces nouvelles formes d'emploi peuvent avoir de multiples avantages pour notre société. Ça peut amener à l'emploi des personnes qui en étaient très éloignées. On prend souvent l'exemple des VTC, hein, du conducteur de VTC. Ça peut permettre de débloquer certaines difficultés. Par exemple, pour les conducteurs de VTC, on a pu contourner le monopole des taxis. Hein, faut parler clairement. Ça peut réduire des rationnements, puisque on était tous rationnés, les touristes aussi, à Paris, par exemple, pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc ça peut apporter un mieux-être dans nos sociétés, mais ça peut aussi apporter des formes d'emploi avec, pour certains, des subordinations économiques extrêmes. Vous prenez l'exemple d'Uber. Bon, il y a eu des cas de requalification quand même, parce que certains travailleurs d'Uber étaient soumis à des durées du travail, des conditions de travail, des contrôles, voire des sanctions qui faisaient que, sans aucun avantage par ailleurs, quand on est déconnecté, il n'y a pas de recours du prud'homme, il n'y a pas de rémunération minimale, c'est la plateforme qui en décide, etc. Vous voyez, des conditions de travail incroyables, c'est aussi ça, l'émergence de ce type d'emploi. Donc, faut faire attention. Faut accompagner, en quelque sorte, pour que certaines de ces personnes, en tout cas, ne connaissent pas des formes de subordination extrême sans droit.
C'est une bonne recommandation, Gilbert Sept, pour terminer cette émission. Merci à vous trois, Christine Hérel, François Veil et Gilbert Sept, donc d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez retrouver cet écho d'ici écho d'ailleurs sur le site internet www.rfi.fr ou via l'application Pure Radio sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.